point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Constance Hubert.
Bienvenue dans ce point de mire consacré au centenaire de la mort d'Henri-Alexandre Vallon. Vallon a donné son nom à l'amendement fondateur de la Troisième République. Telle est la définition qui aurait pu apparaître, si la chronologie l'avait permis, dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, soulignant par là l'importance d'Henri-Alexandre Vallon dans l'histoire des institutions, mais aussi le défaut de connaissance dont sa vie fait l'objet. Or, c'est bien pour célébrer l'homme que s'est tenu dans la grande salle des séances un colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, présidé par M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et c'est à cette journée que le point de mire est consacré. Après l'évocation du portrait familial d'Henri-Alexandre Vallon par ses descendants, Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a rappelé la carrière institutionnelle d'Henri-Alexandre Vallon. C'est à celle-ci que nous nous intéressons aujourd'hui.
Si pour la postérité, Henri-Alexandre Vallon est essentiellement l'auteur du célèbre amendement Vallon et un républicain catholique convaincu, ce fut aussi un historien à l'œuvre très abondante à l'universitaire chevronné. Pendant près de 54 ans, il fut un membre assidu de l'Académie d'inscriptions et belles-lettres et il en fut le secrétaire perpétuel pendant près de 32 ans, de 1873 à 1904, ce qui est un record de longévité dans cette fonction. Pour juger de sa place, de son rôle à la tête de notre compagnie, il est nécessaire sans doute de rappeler brièvement quelle fut sa formation intellectuelle et scientifique et de souligner quelle place essentielle il a tenue dans l'université. Né en décembre 1812 à Valenciennes, dans une famille modeste, rappelons-le, Henri Vallon fit ses études au Collège royal de sa ville natale et obtint tous les prix. En 1830, il entre en mathématiques spéciales, mais il applique bientôt par la philosophie. Fais tes études avec la ferme résolution de te faire admettre à l'école normale, lui écrit son père. Tu sais que c'est là, en faisant une déclaration que tu te dévoueras à l'instruction, que tu seras exempt de la conscription. Ne pense plus, je t'en prie, à la carrière ecclésiastique. Les normaliens sont l'aristocratie de cette société enseignante. Sociologiquement, les normaliens constituent une élite, puisqu'ils accèdent d'emblée aux postes qui sont pour le reste du corps enseignant l'espoir de fin de carrière. Henri Vallon passera 3 années, de 31 à 34, à l'école normale supérieure, où durant les premières années, les cours étaient plus généraux, mais la 3e année, il s'agissait de passer l'agrégation et de préparer une thèse de doctorat. Henri Vallon songea à un moment une thèse sur le Moyen-Âge, sur le chroniqueur Froissart. Il obtint cependant aussi de suivre des cours de droit, il passera les licences de droit, et semble avoir eu quelque temps la tentation de devenir avocat. Parmi ses condisciples, Victor Duruy, Jules Simon, quant aux professeurs. Tous de haute qualité, parmi eux se distingue Jules Michelet, son aîné de 14 ans, auteur déjà célèbre des tableaux chronologiques de l'histoire moderne et de 2 volumes en 1831 d'histoire romaine, La République. Ce serait fort intéressant d'étudier ces rapports entre Vallon et Michelet, car au départ même, ce sont deux tempéraments tellement différents. En 1834, tout normalement, Henri Vallon fut reçu premier à l'agrégation d'histoire, ce qui, en ce temps-là, lui donnait droit à une place de professeur agrégé à Paris. Devant lui s'ouvre une carrière universitaire typique, d'abord à Louis-le-Grand, de 1834 à 1838. Henri Vallon est un professeur consciencieux et clair. La parole de M. Vallon, toujours sûre, toujours grave et peu communicative, lit-on dans les rapports de l'inspection générale. En dehors de cahiers de géographie, tel suit sur les Vallons précisément, il se tourne vers l'histoire et travaille en particulier avec son maître Michelet à l'histoire du consulat et de l'Empire. Il rédige aussi ses 2 thèses qu'il soutiendra en 1837. Celle de doctorat esthète est en latin, Qualis fuerit apud vetere sante Christum de anima immortalitate doctrina, quelle fut auprès des anciens avant le Christ sa doctrine de l'immortalité de l'âme. Sa licence de droit est intitulée Jus Romanum, le droit d'asile. Henri Vallon rêve d'un enseignement à l'école normale, mais il n'a pas la faveur du ministère de l'instruction publique. Victor Cousin, Saint-Marc Girardin, François Villemin lui reprochent tout à la fois son christianisme trop affirmé et d'autre part son attachement à Michelet. Cependant, en octobre 38, il est chargé de cours à l'ENS, puis nommé professeur en 41, et après avoir envisagé de traiter des historiens du siècle d'Auguste, et Claude Nicolas a déjà signalé cet aspect peu connu de la recherche chez Vallon, l'Antiquité. Il est encouragé par Michelet à concourir pour un prix proposé en 1838 par l'Académie des sciences morales et politiques, mon cher confrère, sur le thème de l'abolition de l'esclavage. En 8 mois, par un travail acharné mené avec le concours d'un ami, son condisciple de l'école normale, M. Janowski, Henri Vallon remporte le prix en 1839. Après de nombreuses retouches, l'ouvrage paraîtra en 1847, Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité, en 3 volumes. Cette publication, dont l'importance a été soulignée par l'exposé de mon confrère Claude Nicolet, devait constituer une étape décisive à la fois dans la vie et dans la carrière d'Henri Vallon. En effet, en 1848, l'auteur de l'Histoire de l'esclavage fut choisi comme secrétaire de la Commission pour la suppression de l'esclavage. Et sur l'intervention de Schoecher, lors des premières élections au suffrage universel, il fut élu à la Guadeloupe comme suppléant pour l'Assemblée constituante. En 1949, il figure à l'Assemblée nationale, cette fois sur la liste du Parti modéré du Nord. Mais comme on vous l'a appris l'année suivante, lors du vote de la loi apportant des restrictions au suffrage universel, il démissionne. Ainsi, Henri Vallon, à partir de 1848, apparaît désormais comme un universitaire, certes avec des postes importants dans l'université, mais aussi comme un homme politique, dans une position originale, il faut le souligner. Puisque chrétien affirmé, il est également engagé dans les luttes pour l'émancipation des Noirs.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons Constance Hubert.
Ses études, sa formation, la place essentielle qu'Henri-Alexandre Vallon occupait à l'université le mènent à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, comme nous l'explique Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
C'est dans ce contexte, le 22 novembre 1850, qu'Henri Vallon fut élu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il n'avait pas encore atteint 38 ans. Et il succédait, contraste de la vie académique, à 4 maires de Quincy, auteur du fameux examen de l'architecture égyptienne, publié en 1785, et qui venait de décéder à l'âge, lui, de 95 ans. Mais auparavant, Henri Vallon avait présenté devant l'Académie d'inscription une communication, explication d'un passage de Plutarque sur une loi de Lycurgue nommée la crypte, essai qui témoigne de son érudition. Comme le fera encore un autre exposé, on a parlé tout à l'heure de l'épigraphie, observation sur une inscription relative à des esclaves fugitifs trouvés sur l'acropole d'Athènes. C'est un savant remarquablement formé pour les études classiques. Mais quelques années après, publiant une série de livres de piété, l'œuvre de Vallon est une œuvre immense, mais avec naturellement des tendances selon les années, il fait alors à l'Académie des inscriptions, en mai 58, une communication sur les années de Jésus-Christ, concluant que la date de naissance est le 25 décembre de l'an 7 avant notre ère, et la date de la mort le mercredi 3 avril 33, donc dans la 39e année du Christ. Puis je ne m'engagerai pas, car vous savez que c'est un sujet extrêmement difficile et sur lequel les opinions divergentes abondent. Mais en 1859, il présente des objections aux mémoires de Renan sur le monothéisme des races sémitiques. Il fallait du courage pour le faire. En 1862, il examine, toujours devant l'Académie, la liste des éléments déterminés au Moyen-Âge par le jour de l'entrée du soleil dans les signes du zodiaque. Notons aussi qu'il participe, Quête Conti, à la commission des historiens occidentaux des croisades. Travailleur acharné, se demande quel était le nombre d'heures par jour du travail de Vallon. Travailleur acharné, notre académicien se consacre essentiellement à son enseignement en Sorbonne et à la publication de gros ouvrages. Ainsi, il relève dans l'œuvre de Bossuet tous les passages des évangiles. Puis il nous montre, comme nous l'a montré Jean Cluzel, il publie en 1860 une Jeanne d'Arc en deux volumes qui remporte le prix Goubert de l'Académie et, comme vous l'avez montré, obtient un vif succès de lecture. Se tourne alors vers l'histoire de l'Angleterre au Moyen-Âge, présentant en 1863 à notre compagnie, car à chaque fois, ces ouvrages sont accompagnés de communications devant notre compagnie, un exposé sur l'insurrection des paysans de 1381. Puis il s'attache à la chute de Richard II, sur laquelle il publie un ouvrage en deux volumes. En 1864, il donne une nouvelle communication à l'Académie sur l'alliance anglo-flamande et la bataille de Rosbeck. En 1866, il offre à l'Académie une étude sur Jeanne d'Arc, une étude particulière, puisqu'il s'attache à l'orthographe de son nom, vous avez signalé tout à l'heure, a-t-il une apostrophe, et il insiste aussi sur le fait que Don Rémy était terre française, un thème, vous avez vu, qui a une grande importance. Désormais, il s'intéresse aux premières guerres d'Italie, sous Charles VIII, puis à Saint-Louis, dont il publie un panégyrique en 1875. Avec la chute de l'Empire, et là il y aurait une recherche intéressante aussi à mener dans tous les papiers, ces immenses papiers Vallon que beaucoup d'entre vous ici dans la famille Vallon connaissent, il pourrait s'intéresser à la position en retrait de Vallon sous l'Empire. En effet, dès 1871, il est réélu par le département du Nord à l'Assemblée nationale, siège d'abord au centre droit, puis se rapproche du centre gauche. Vous le savez bien, il est absolument sur le fil de l'épée en ce qui concerne ce ralliement par rapport à la droite ou à la gauche. Le 30 janvier 1875, comme nous l'a expliqué notre grand frère Roland Drago, c'est le fameux amendement. En mars 1875, il devient ministre de l'Instruction publique et des cultes dans le ministère MacMahon. Et en 1875, décembre 1875, il fait partie de cette fournée spéciale des 75 sénateurs inamovibles, c'est-à-dire nommés à vie, il va être sénateur jusqu'à la fin de sa vie. Toutes ces fonctions, ces charges, car à chaque fois, pour Henri Vallon, ce n'est pas seulement un honneur, mais c'est en même temps une charge, il participe effectivement à la vie de toutes les institutions auxquelles il était associé. Henri Vallon est assidu pendant tout ce temps, je vous l'ai dit, très assidu à l'Académie d'inscriptions et belles-lettres. Il y présente en hommage des ouvrages, nombreuses fois. Et à maintes reprises aussi, il supplée sur sa demande le secrétaire perpétuel Joseph Guignot, son ancien maître à l'École normale supérieure, qui était fort affaibli, mais qui tenait toujours à venir à l'Académie. C'est donc tout naturellement que Joseph Guignot étant démissionnaire, Henri Vallon est élu lui-même secrétaire perpétuel de l'Académie d'inscriptions des belles-lettres le 24 janvier 1873, à 61 ans. Pendant près de 32 ans, presque 32 ans, avec une ponctualité exemplaire, Henri Vallon va s'acquitter des devoirs de sa tâche académique tout en participant, de façon plus générale, d'une façon extrêmement active à la vie universitaire et scientifique. Ses travaux vont porter essentiellement, alors là je vous laisse deviner, vous allez être étonnés, sur la Révolution française. Après avoir publié chez Hachette deux volumes sur la Terreur, deux ouvrages remarquables aussi, faudrait analyser, il consacre six volumes, publiés de 1880 à 82, à l'histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes, dont il donnera en 99-1900 une édition résumée. En 1886, il publie deux volumes sur la Révolution et le fédéralisme en 1793, ou la France parisienne vaincue par la Commune de Paris. Enfin, cinq volumes de 89-90 sur les représentants du peuple en mission, ouvrage qu'il présente bien entendu en hommage à l'Académie. Ces gros volumes sont avant tout des dossiers d'études, d'abondants recueils de documents, fruits de très longues consultations des archives. On n'y décèle aucune recherche à proprement parler d'écriture, mais domine un souci très scrupuleux de vérité. La République, certes, pour Vallon, mais aucune concession envers la violence et ses excès. « J'ai toujours défendu la Révolution de 89, écrit-il, et je serai toujours prêt à la défendre pour ses réformes sociales et la restauration de nos libertés politiques. Mais je réprouve toutes les journées où se mêle impunément l'assassinat. » Et de conclure, l'institution du tribunal révolutionnaire a été le crime et l'erreur de la Révolution. Vous comprendrez naturellement que par la suite, l'œuvre sur la Révolution, l'œuvre considérable de Henri Vallon sur la Révolution, ait été occultée par certains de ceux qui ont occupé les chaires relatives à ce domaine de notre histoire. Même scrupule dans la gestion de l'Académie. Chaque année, le secrétaire perpétuel, c'est son devoir, présente un rapport substantiel sur les publications de notre compagnie. Conformément à la tradition d'alors, et vous le savez, les usages changent, les usages ont changé, c'est, qui confiait alors au secrétaire perpétuel le soin exclusif de prononcer l'éloge solennel des confrères défunts, Henri Vallon a eu l'occasion à maintes reprises de s'acquitter de ce pieux devoir. On lui doit ainsi plus d'une trentaine de notices historiques sur la vie et les travaux des membres de l'Académie décédés. C'est très documenté, mais le style en est vraiment très académique. Elle témoigne d'enquêtes précises sur les carrières, j'ai mis académique entre guillemets naturellement, témoigne d'enquêtes précises sur les carrières et les œuvres des érudits disparus. Substantiels sont également les rapports annuellement présentés sur les publications de l'Académie. Ajoutons, d'autre part, qu'il fait aussi fréquemment à l'Académie, il en donne le résultat de ses propres lectures par des hommages d'ouvrages très divers. À ses charges de secrétaire perpétuel, Henri Vallon ajoutait son mandat de sénateur inamovible. Quant à son pouvoir sur l'université, il demeure grand. De 77 à 87, il est doyen de la faculté des lettres de Paris, où, lors de son passage au ministère, en 75, il avait fait créer la chaire d'archéologie classique. Voilà encore un domaine où les spécialistes doivent être reconnaissants à Henri Vallon. Mais ils ne le savent pas toujours. Sportif, il fut longtemps un adepte du patin à glace. On nous l'a évoqué tout à l'heure avec ses patins à glace. Resté alerte malgré l'âge, il sauve en 1878 aux Petites Dalles des baigneurs en danger, ce qui lui vaut la médaille de sauvetage. En 1888, il représenta l'Académie en compagnie de Georges Perrault et d'Henri de Villefosse à l'inauguration du musée du Bardo à Tunis. Il y prononça un discours remarqué et reçut alors la Grande Croix du Nishan. Ayant au préalable visité rapidement la province d'Alger jusqu'à Cherchel, c'était un voyage à ce moment-là, et celle de Constantine jusqu'à Lambèse et Biskra. Hein, j'attends qu'on me montre des photographies d'Henri Vallon à Biskra. Hein, c'est encore une image inattendue. Il se rendit à Carthage, naturellement, à Kairouan, à Sousse. On vit encore Henri Vallon en 1895, lors de la célébration du centenaire de l'École normale supérieure, assister au bal jusqu'à une heure avancée de la nuit. Très fidèle à l'école, il fut un membre actif du conseil de l'association des anciens élèves, je crois qu'il est même membre du conseil de fondation, fier qu'il soit entré, deux de ses fils et deux de ses petits-fils. Je me suis arrêté là, dans la famille d'Henri Vallon, peut-être y en a-t-il encore, ou sous le nom de Vallon, ou sous d'autres noms, qui comptent parmi les, vous me direz madame, qui comptent parmi les membres de l'École normale supérieure. On ne saurait naturellement évoquer la figure d'Henri Vallon sans insister sur la vie familiale. Des exemples ici. L'austère patriarche étant entouré de cette famille si nombreuse et si riche elle-même de personnalités remarquables. Toutes ces lourdes responsabilités et le cortège d'obligations qu'elles impliquent, Henri Vallon les a assumées avec la gravité et la dignité qui est la sienne. Tout à la fois libéral et républicain convaincu, catholique militant, nous l'a rappelé, il était membre de la conférence Saint-Vincent de Paul et ses votes, ses interventions aux assemblées le montrent, il est mu avant tout par la recherche de la vérité. Son discours était clair, mais d'une froideur certaine, mais c'est une éloquence vraiment académique, et en juillet 1874, s'opposant à un projet de Casimir Perier, il descendit de la tribune en concluant ainsi « Comme je n'ai pas l'habitude de parler pour le plaisir, je descends de la tribune. » Nul n'a jamais moins cherché la notoriété qu'Henri Vallon. Cependant, à son poste de secrétaire perpétuel, à son rôle politique de côtoyer quotidiennement toute l'élite intellectuelle de son époque, non seulement les savants les plus érudits, mais les auteurs les plus en vue, il fut certes à plusieurs reprises tenté d'être candidat à l'Académie française. Il agit jusqu'à présenter sa candidature, mais se retira, comme le montre par exemple sa correspondance avec Mgr Dupanloup. Trop républicain aux yeux de certains, trop catholique pour d'autres, on lui reprochait aussi son manque d'éclat dans la présentation d'une érudition pourtant exemplaire. Il est vrai qu'à l'Académie, ses concurrents se sont appelés les Littrés ou les Seps, voire Ernest Renan lui-même, lors de l'élection de juin 1878. Dans cette vie, comblée de charges et d'honneurs, une des dernières manifestations qui lui furent dédiées fut en novembre 1900, la remise par ses confrères d'une médaille gravée par Chapelain de l'Académie des Beaux-Arts, portant la dédicace après 50 années d'heureuse confraternité. Lequel de nos confrères pourra avoir une pareille dédicace? Le 13 novembre 1904, s'éteignit Henri Vallon, après avoir consacré le meilleur de lui-même à l'Institut de France, plus spécialement à l'Académie d'inscriptions et belles-lettres, mais avoir été présent aussi dans les pensées des membres de l'Académie des sciences parallèles et politiques, plus spécialement dans notre Académie pendant plus d'un demi-siècle, et ayant tenu la charge majeure durant le temps record de près de 32 ans. Je vous remercie.
Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous parlait à l'occasion de la commémoration du centenaire de la mort d'Henri-Alexandre Vallon, de la carrière de celui-ci comme secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous pouvez retrouver sa communication sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr.